E-Radio, l'invité de la rédaction.
Et tout de suite, Chloé Fabre.
L'Union des fédéralistes européens, c'est une association qui a été créée en 1946, en fait à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, parce que dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait pas mal d'idées fédéralistes qui avaient circulé pour construire la paix en Europe et rendre cette paix réelle. Et donc ces différents militants, résistants, se sont retrouvés à Montreux en 1946 et ont créé cette association, qui à l'époque était une grosse association, en France aussi. On a eu Henri Freinet, qui est un résistant assez connu, qui a été président de l'association à un moment. Puis petit à petit, en France, c'est une association qui a diminué. Donc là, on est sur une petite association familiale. C'est pas familiale, mais voilà, on est sur une taille, en fait, qui nous permet d'être sur vraiment une proximité avec les adhérents et de nous adapter au mieux. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est même si c'est une association historique, l'association, elle est faite par les gens qui y sont aujourd'hui. Donc, on est vraiment là-dessus. Et en Ile-de-France, on est 80 adhérents. Voilà, un nombre qui est correct, assez faible pour toute l'Île-de-France quand même, quand on sait qu'il y a 10 millions d'habitants en Île-de-France. Et on a un fonctionnement en fait très horizontal où on a des assemblées générales tous les 2-3 mois pour décider de quelles vont être les prochaines activités. Et donc voilà, en fonction des envies, de ce que les gens souhaitent faire, ce qui leur semble important, on décide des activités. Alors, on a différents formats quand même. On a pas mal de conférences, colloques. Alors, on essaye de faire plutôt des colloques sur une journée en invitant des universitaires pour réfléchir à un sujet de manière un petit peu approfondie. Mais ça peut aussi être des cafés-débats un peu plus courts. Et on travaille aussi pas mal sur la formation de nos adhérents. Et puis des personnes intéressées avec soit des sessions de formation vraiment sur qu'est-ce que le fédéralisme, comment ça fonctionne dans les États qui sont des États fédéraux, mais aussi partage de lecture, ce qu'on appelle l'effet des lectures. Donc par exemple, j'ai lu un livre qui parle de fédéralisme, je vais en discuter avec les personnes intéressées et puis on va discuter. C'est aussi un format qui nous a permis de faire venir des auteurs, des choses comme ça.
Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la PFUE ?
Nous, sur la présidence française du Conseil de l'Union européenne, comme on est une association fédéraliste, les présidences tournantes, ce n'est pas vraiment ce qui nous mobilise le plus. Parce que la présidence tournante, c'est bien parce que ça fait parler d'Europe dans le pays qui est concerné. Mais en fait, est-ce que vous vous souvenez de qui était le pays président avant la France ? Moi, je ne le sais pas. Et je pense que la plupart des gens ne le savent pas. Donc, en fait, ça concerne vraiment le pays concerné. Je ne pense pas que ce soit ça qui fasse avancer beaucoup les débats au niveau européen, cette présidence tournante. Mais ça fait exister le sujet européen en France. Et ça, c'est déjà intéressant avec cette fois. Mais comme c'était le cas, la dernière présidence tournante, c'était il y a une dizaine d'années maintenant, où on parle des sujets européens avec là des volontés affichées fortes. Quelque chose qui, moi, me manque quand même et qui manque à toute notre association, c'est qu'on a un gouvernement fédéral allemand qui s'est positionné très fortement sur l'avenir de l'Europe, que ce soit sur la conférence sur l'avenir de l'Europe en disant qu'elle va ouvrir un processus constituant et que ce soit sur les finalités de l'intégration européenne qui est la création d'un État fédéral européen. Et donc, ce qu'on attend, du gouvernement français, mais c'est peut-être pas la bonne période, et ça viendra peut-être plutôt après les élections présidentielles et législatives, c'est de pouvoir répondre au gouvernement allemand en disant nous aussi, on est favorable à la mise en place d'un État fédéral européen et au moins d'une assemblée constituante. Et pour nous, c'est plus ça l'enjeu sur cela, ce premier semestre, sur les élections législatives et présidentielles, de mettre ce sujet-là dans le débat pour permettre aux citoyens de se positionner.
Mais vous pensez qu'aujourd'hui, notre gouvernement a une véritable volonté d'avoir une Europe fédérale ?
Alors, ce gouvernement, celui qui, depuis des années, est quand même pour qui l'Europe est le plus évident. C'est quand même assez indéniable jusque-là, mais je pense que c'est un changement de génération. Très clairement, j'avais un copain qui disait ça il y a 10 ans, il disait il faut qu'on ait un président qui soit quarantenaire, qui ait fait Erasmus, et la vision de l'Europe changera. Et je pense que c'est vraiment ça qui s'est passé là ces 5 dernières années. Ce qui est intéressant, et on va le revoir, je pense, dans cette campagne, c'est qu'en 2017, enfin, aux dernières élections présidentielles, on a eu un positionnement très pro-européen, voire fédéral, du candidat aux élections présidentielles. On a actuellement un secrétaire d'État aux affaires européennes qui est quand même très pro-européen, voire fédéraliste. Alors, je pense qu'il ne s'assumerait pas forcément ouvertement fédéraliste dans les médias, tout ça, mais c'est quand même quelqu'un qui a cette vision-là de l'intégration européenne. Je ne suis pas sûre qu'ils oseraient dire qu'ils sont pour un État fédéral européen. À mon sens, c'est dommage, parce que ce que pour nous, à l'Union des fédéralistes européens, le Brexit a montré, c'est qu'en fait, quand on propose un faux choix aux gens qui est sortir ou le statu quo ne convenant pas aux gens, bah, les gens ils choisissent de sortir. Mais on n'est pas obligé de rester dans le statu quo. On peut aussi se dire, comment est-ce qu'on se donne les moyens, au niveau européen, de décider collectivement sur les enjeux contemporains ? Je pense à l'environnement, je pense à la question des migrations, je pense aux inégalités à l'intérieur du continent européen, mais aussi à l'extérieur, toutes les questions de diplomatie, politique extérieure, défense, sécurité mondiale, tout ce gros paquet-là qui fait encore l'objet de décisions à l'unanimité, mais qui sont des enjeux essentiels si pour nos générations et des suivantes, on veut toujours pouvoir décider dans le monde en fait, dans lequel on vit. Et aborder sous cet angle-là, je pense qu'il pourrait, on pourrait trouver une majorité de gens en France qui sont d'accord avec ça. Et c'est ce qu'ont montré aussi les consultations qui avaient eu lieu il y a quelques années sur l'Europe, où en fait, les citoyens en France, ils ont envie de quelque chose qui fonctionne mieux. Et le fédéralisme, c'est aussi une organisation plus pragmatique qui permet de faire fonctionner la structure européenne.
Est-ce que UEF France prône une version calquée du fédéralisme allemand, mais au niveau de l'Europe ?
Alors, ce ne sera jamais un calque, parce que l'intérêt du fédéralisme, c'est d'être une vision assez souple qui s'adapte aux problématiques. Donc, ce ne sera pas un calque. Moi, j'ai quand même beaucoup d'admiration pour la démocratie allemande, qui est une démocratie parlementaire. Et en tout cas, pour moi, et ce n'est pas le point de vue là, de l'ensemble des gens à l'Union des fédéralistes européens, mais le parlementarisme est un outil de démocratie contemporain très moderne, beaucoup plus que le présidentialisme qu'on connaît en France, qu'on connaît aussi aux États-Unis, qui a un régime beaucoup plus présidentiel. Mais ce ne sera jamais un décalque, parce que la raison pour laquelle l'Allemagne est devenue fédérale, ou la raison pour laquelle la Belgique est devenue fédérale, ou l'Autriche, si on veut prendre des États qui font partie de l'Union européenne, ne sont pas les mêmes que les raisons pour lesquelles l'Union européenne deviendra fédérale. Ce n'est pas les mêmes sujets à résoudre, ce n'est pas les mêmes enjeux, donc ce ne sera jamais un décalque. Mais par contre, un rôle fort d'un Parlement qui peut avoir le droit d'initiative législative, si on veut parler de choses un peu concrètes, c'est ça, c'est dire que le Parlement européen a le droit d'initiative législative, qu'il est codécisionnaire sur tous les sujets avec le Conseil ou les représentants des États, et que la Commission est un gouvernement, en fait, avec des ministres responsables devant le Parlement européen. Si on veut parler purement d'architecture institutionnelle, et ça, c'est la base de n'importe quelle structure fédérale ou pas fédérale, d'ailleurs, parce que ce que j'ai dit est quand même relativement large.
Et sur quel sujet phare vous pensez qu'un fédéralisme européen est absolument nécessaire ?
Pour moi, il y a la question de l'euro, enfin de la monnaie commune et de l'économie, et la question de sécurité ou sûreté mondiale, mais en tout cas notre place dans le monde en termes de... Si on prend la question de l'euro et de... Bonjour Sylvia.
Bonjour. Désolée pour le retard.
On était sur quel est le sujet pour lequel un fédéralisme est absolument essentiel au sein de l'Union européenne. Et je disais la politique économique, l'euro, et puis la politique étrangère. Si je développe un petit peu sur la politique économique, on a une monnaie commune. Et c'est super. Là, je voyais en Pologne, le prix du pain a doublé en un an. Je pense que c'est... que nous, on n'a pas le prix du pain qui a doublé, aussi parce qu'on a l'euro qui nous préserve de l'inflation. Donc, cette monnaie commune, elle nous est utile, elle nous sert, au-delà d'harmoniser les politiques, enfin, les niveaux des monnaies au sein de l'Union européenne. Mais si on n'a pas de budget derrière, on ne crée pas la confiance. Et en fait, quand on voit ce qui s'est passé en Grèce il y a quelques années, moi, ça m'a rendu malade, de me dire parce qu'on n'a pas un budget suffisamment fort, il y en a qui spéculent sur le fait que la Grèce ne sera pas capable de rembourser sa dette. Personne n'a jamais spéculé sur la dette de la Californie qui pourtant est beaucoup plus endettée. Pourquoi ? Parce qu'il y a la Banque fédérale américaine derrière, qu'il y a le budget fédéral américain et que de toute façon on sait que les États-Unis paieront. Et en fait on a fait subir aux Grecs notamment, mais pas que, les conséquences d'une incapacité des chefs d'État à décider à Maastricht de mettre en place non seulement une monnaie unique, ça c'était génial et je suis ravie qu'ils aient décidé de le faire et qu'ils y soient arrivés, mais derrière une monnaie, il y a une politique économique, il y a une politique fiscale et il y a une politique budgétaire. Et c'est les seuls moyens de faire marcher notre monnaie commune. Et aujourd'hui, si on veut continuer, il va bien falloir qu'on aille là-dessus. Donc, ils ont mis en place les mécanismes pour essayer de s'en sortir. On a bricolé comme on bricole tout le temps. Ça ne peut pas être suffisant parce qu'on en aura d'autres, des crises économiques. On en aura d'autres, des crises de la dette. Et on ne peut pas subir ça à chaque fois. Ça, c'est sur la question vraiment économique où, pour moi, il nous faut un gouvernement économique européen et que nous, on puisse décider. Parce que sur ce qui s'est passé en Grèce, ce n'est pas l'Union européenne qui a décidé. Il y avait la Commission... Mais avec quel mandat avec quoi comme élément qui venait de nous, notre vote citoyen, les représentants des banques, avec dans la Troïka, et des gros États qui ont des banques qui étaient à risque, c'est-à-dire la France et l'Allemagne, parce que c'était ça quand même, les banques qui étaient à risque. Mais il n'y avait pas du tout, le Parlement européen n'a pas été impliqué, nous, citoyens, on n'a pas été impliqués. Et ça, je trouve ça gênant, d'un point de vue démocratique. Je suis convaincue que le Parlement européen aurait été impliqué, on n'aurait pas pris les mêmes décisions. Parce qu'il aurait fallu que les parlementaires y reviennent devant leur électorat, quand bien même il est encore assez nationalisé tout ça, et disent « bah ouais, j'ai voté ça ». Et je ne suis pas sûre qu'on aurait revoté pour quelqu'un qui dit « si, si, on diminue les allocations chômage, on diminue les retraites », même si c'est ailleurs et même si c'est loin. Vous voyez, ça aurait créé un positionnement qui était un peu différent sur tout ça.
Et sur la politique étrangère européenne que vous mentionniez tout à l'heure ?
Aujourd'hui, il y a la Russie et les États-Unis qui se retrouvent, je ne sais pas où d'ailleurs, sur Zoom peut-être, pour discuter du sort de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est notre voisin. L'Europe, elle a été super impliquée sur la question ukrainienne depuis 15 ans. À financer des programmes pour essayer de développer des échanges, pour essayer de développer la démocratie. Enfin, l'Europe a été très, très impliquée sur l'Ukraine. Et là, bon, ils ne sont pas présents. Ce n'est même pas l'Union européenne qui n'est pas présente, mais il y a Angela Merkel qui est là ou il y a Emmanuel Macron qui est là. Il n'y a personne. Parce que, en fait, la dernière fois qu'ils se sont vus, il y avait Angela Merkel et Emmanuel Macron. Il n'y avait pas Joseph Borrell. Ils avaient oublié de l'inviter. C'est dommage. On a un vice-président en charge des relations extérieures, on ne l'invite pas sur des réunions de relations extérieures. Et ça, ça montre à quel point il va rien se décider là sur l'Ukraine, sur cette réunion-là, je pense. Mais mine de rien, possiblement, ça va engager un processus et nous, on n'aura rien à dire. Et c'est à nos frontières. L'Ukraine, c'est à notre frontière. Alors, ça semble un peu loin pour les gens qui sont à Strasbourg, mais c'est quand même notre frontière quand on est en Bulgarie ou en Roumanie. Et ça, c'est vrai sur l'Ukraine, c'est vrai sur tout le reste. Et si on n'arrive pas à avoir une voie où le premier marché mondial, qu'est l'Union européenne pour encore quelques années, qui utilise ça pour défendre ses valeurs et se positionner sur la scène internationale, on n'existera plus. Et alors, on peut parler de l'Ukraine, on peut parler de la géopolitique, tout ça. Mais ça veut dire quoi sur le plan environnemental, où l'Union européenne est quand même le fer de lance d'une politique de soutenabilité, enfin en tout cas d'essayer de limiter notre impact. Si on ne pèse plus rien, ça ne sert à rien que l'Union européenne fasse quoi que ce soit. Donc on a un vrai enjeu dans les à mettre en place un gouvernement qui soit fédéral et qui puisse prendre ses décisions et ses positionnements.
Et vous, Sylvia Romano, on le rappelle, vous êtes la secrétaire générale de la section locale Île-de-France de l'UEF. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Tout ce que Chloé vient de décrire, ainsi que d'autres sujets qui peuvent toucher à la santé, nous avons vu avec la pandémie Covid, mais même avec des sujets sociaux, désormais des différences énormes entre les citoyens de certains pays de l'UE et d'autres qui sont quand même tous membres du même marché intérieur et qui donc après génèrent un dumping social et d'autres effets. Donc il y a tout un tas de matières qui touchent ces éléments de politique interne, mais aussi la politique extérieure. Donc Chloé parlait, mais même des fois des sujets d'affaires intérieures qui sont des compétences strictement nationales. Donc tout cela, dans tout cela aujourd'hui, donc l'Union européenne ne peut pas pleinement décider parce qu'elle n'en a pas la compétence. Et pourquoi nous les fédéralistes, nous ne sommes pas que tout justement des pro-européens, mais nous sommes des fédéralistes européennes. Parce que le point c'est que dans tous ces sujets clés pour un État, pour les citoyens, on ne peut pas simplement transférer les compétences. Bon, on donne la compétence de santé à l'Union européenne, on donne la compétence en matière d'affaires intérieures à la Commission européenne telle qu'elle était aujourd'hui. Ce sont des compétences qui sont au cœur des systèmes démocratiques. Donc, on ne peut pas transférer cela à l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Il faut un État. C'est pour ça que Chloé parle justement de gouvernement européen. Donc, nous avons besoin d'un État avec toutes les garanties démocratiques d'un État, avec un Parlement, un gouvernement qui répond devant ce Parlement directement élu, et un vrai système où il y a un équilibre des pouvoirs, un système démocratique tel quels sont les constitutions, la Constitution française et les constitutions que nous avons dans les autres pays européens et non seulement, qui garantissent la démocratie des prises de décision et la possibilité d'impliquer les citoyens. Donc, c'est pour cela que nous, les fédéralistes européens, nous sommes pro-européens dans le sens que nous pensons fortement que la solution soit plus d'Europe. Mais il faut effectivement non seulement la doter plus de pouvoir, mais des bonnes institutions. Sinon, on va perdre ce qui est le lien entre les citoyens et les choix qui affectent les citoyens.
Merci. Vous avez des événements que vous allez organiser prochainement dans les semaines ou mois à venir ?
Là, on a un colloque qui va avoir lieu le 5 février, qui va porter sur les identités, avec pour titre « Identité au pluriel, fiction et question ». Donc là, on va s'entourer de chercheurs qui réfléchissent à cette question d'identité. Notre objectif, ce n'est pas que l'identité individuelle, on n'est pas tout à fait là-dessus, on est plus sur ce qui fait l'identité d'un groupe, ce qui fait la multiplicité des identités dans un groupe, comment les identités dialoguent entre elles, comment est-ce qu'elles sont un facteur de richesse et comment est-ce qu'un État peut faire de la diversité une richesse. Et on est convaincu que l'État fédéral est un des outils. C'est le cas par exemple au Canada, c'est le cas par exemple en Suisse ou en Inde. Hein. En Inde, il y a plus de 100 langues qui sont parlées. Donc voilà, on est dans des États qui sont très, très divers. Comment est-ce que l'État fédéral est un outil pour favoriser la diversité, accueillir cette diversité et en faire une richesse? Et donc notre objectif avec ce colloque, c'est de donner des outils de réflexion à nos militants, mais aussi aux personnes intéressées, pour penser autrement l'identité que sur cette façon très crispée qu'on peut avoir actuellement et qui tend le débat et qui fait qu'on n'arrive plus à dialoguer sur les complémentarités, les richesses des uns et des autres, la fluidité des identités.
Merci à toutes les deux, Chloé Fabre, vice-présidente, et Sylvia Romano, secrétaire générale de l'Union des fédéralistes de France en Île-de-France.
C'était l'invité de la rédaction de Euradio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur euradio.fr.